RTL l'équipe. Carrément vélo, Emmanuel Barre.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL Équipe, c'est un plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle formule de Carrément Vélo. 30 minutes, la première demi-heure consacrée à l'actualité. Un an de suspension pour Alberto Contador. L'Espagnol a annoncé son intention de faire appel de cette proposition de suspension. Attention, on parle bien de proposition de suspension. Il espère toujours prouver son innocence, mais il est clair qu'il y a très peu de chances tout de même à présent qu'il soit au départ du prochain Tour de France. À l'heure où les affaires se poursuivent, la saison a d'ores et déjà débuté en France avec hier la victoire de Jérémy Roy sur le Grand Prix de la Marseillaise. Le coureur de la FDJ sera en ligne avec nous à partir de 11h45. Premier Jérémy Roy, deuxième position pour Sylvain Georges et troisième position pour Romain Feuillu. Un podium, vous l'avez compris, 100% tricolore. Au programme également de ce Carrément Vélo, une question et forcément un débat. À l'heure de la mondialisation du cyclisme, les coureurs se retrouvent en Australie, en Malaisie ou encore en Afrique. Victoire d'Anthony Chartaud sur la Tropical Amissa Bongo, le Gabon, théâtre d'une épreuve cycliste où les Européens participent également au développement du vélo dans cette partie du monde. Et parmi ces coureurs, un certain Sylvain Chavanel. La question est simple, est-ce bien raisonnable de débuter sa saison en Afrique ? Ouverture des débats à partir de midi. Enfin, coup de projecteur sur un gars du Nord qui trace sa route en Belgique. Son histoire pourrait inspirer Danny Boone, mais c'est sur les pavés qu'il s'exprime le mieux, renié par les recruteurs français. David Boucher fait depuis quelques années le bonheur des équipes belges. C'est en Belgique qu'il trouve son petit coin de soleil. David Boucher sera en ligne avec nous en dernière partie d'émission.
RTL l'équipe, Carrément Vélo.
Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter l'émission en podcast. Vous allez sur rtl.fr, vous cliquez sur podcast et puis vous pouvez évidemment réagir sur le mur Facebook de Carrément Vélo. Carrément Vélo sur RTL équipe direction Facebook pour réagir à toute l'actualité ou poser une question à nos spécialistes. On attend Nicolas Pertuis de Vélo Magazine qui va venir. Il est actuellement bloqué dans les transports. Il sera avec nous d'ici quelques minutes. Mais on accueille d'ores et déjà Pierre Salviac. Bonjour Pierre.
Salut Manu.
Ça vous plaît ce programme de Carrément Vélo? Programme riche aujourd'hui.
Oui. Et puis, ça y est, la saison est lancée. Quoi.
Ah, la saison est véritablement lancée. On l'a dit hier avec la victoire de Jérémy Roy sur le Grand Prix de la Marseillaise. Premier Roy, deuxième Sylvain Georges, troisième Romain Feuillu. Mais pour l'heure, parlons d'Alberto Contador, puisque c'est tout de même l'actualité la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de traiter évidemment encore dans Carrément Vélo. Un an de suspension pour le dernier vainqueur du Tour de France. Pierre, attention, mais vous le savez, on parle pour l'instant uniquement de proposition de suspension pour le coureur espagnol.
Ouais, j'avoue, je ne veux plus rien comprendre dans cette histoire. Proposition de suspension, un an, c'est déjà bâtard, parce que quand on est pris par la patrouille avec ce genre de produit dopant, normalement, la punition, c'est 2 ans, on est bien d'accord, réglementairement. En ce qui concerne la proposition d'un an pour Contador, ça veut dire que déjà, on lui a fait une proposition de suspension à la carte. Sans doute grâce à son nom, sans doute à cause de la batterie d'avocats qui risque de se retourner contre ceux qui prennent les sanctions.
Ou alors ça veut également dire qu'il n'est pas tout à fait coupable.
Alors, on est bien d'accord qu'on juge la qualité par la quantité, hein, dans le cas du dopage. C'est-à-dire que même s'il y a des traces infinitésimales de produits dopants, c'est considéré comme du dopage. Donc en l'état actuel des choses, il ne nie pas qu'il y a des traces de produits dopants dans ses urines ou dans son sang. Il dit seulement que si c'est le cas, ça serait pratiquement à l'insu de son plein gré. Hein. C'est son système de défense et il n'a pas varié par rapport à ça.
Pour l'instant, le système de défense était effectivement de mettre en avant cette contamination alimentaire.
Hein. Voilà. Alors moi, ce que je constate au passage, s'agissant de la proposition de sanction, c'est que y a deux choses qui me paraissent remarquables. La première, c'est que on ne lui enlève pas les gains.
Pour l'instant.
Oui, mais pour enlever les gains, il faut une suspension de 2 ans. Parce qu'autrement, la suspension d'un an, la part prise sur les gains est dérisoire. Et deuxièmement, on n'a pas enlevé les points de son équipe. On est bien d'accord.
Ça, c'est sûr.
C'est-à-dire que son équipe peut cumuler des points pour faire partie du top 18 du championnat.
Effectivement, c'est-à-dire que son équipe va conserver donc les points acquis par Alberto Contador.
Alors, faisons le résumé. Contador, suspecté, qui se défend, c'est normal. Qui est sanctionné de manière bâtarde, puisque ça ne correspond pas au barème de sanction. Qui ne va donc pas payer le prix normalement à payer quand on est positif dans ce cas-là, et qui ne pénalise pas l'équipe qui l'a engagé. je trouve que quelque part on se fout de la gueule du monde, quoi.
D'accord.
Ou il est coupable, ou il n'est pas coupable.
Donc clairement, Pierre, vous n'êtes pas, alors que Nicolas Pertuis vient de faire son entrée dans ce studio, il va s'installer, c'est du direct, on va le retrouver d'ici quelques secondes.
Il est soufflé, non ?
Oui, il est un petit peu essoufflé.
Ouais, ça se voit qu'il n'est pas en forme.
Pierre Salviac, vous n'êtes pas satisfait en tout cas de cette suspension, mais... de cette sanction provisoire, enfin proposition de suspension pour Alberto Contador.
Mais comment peut-on être satisfait d'une sanction de ce genre? Il y a un règlement, il y a des barèmes. Donc, où on applique les barèmes par rapport au règlement et on ne peut pas être satisfait. Ou alors, comme il le prétend, Contador n'est pas coupable. Mais jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, je vous dis, il ne nie pas. Il ne nie pas des traces de produits dopants. Il dit seulement que c'est dans de la viande, mais il nie pas les traces de produits dopants. On ne lui pose pas la question de savoir d'où ça vient. On lui pose la question de savoir, est-ce que ça vient bien de son corps. Et jusqu'à preuve du contraire, il dit pas non. Donc normalement, il est sanctionnable. Et s'il est sanctionnable, il y a un barème. Et si on applique le barème, on est loin du compte.
Nicolas Pertuis, bonjour.
Bonjour à tous.
Tout va bien, Nicolas ? Ouais, on a débuté l'émission. On parle du cas Alberto Contador. Avant de parler de la victoire de Jérémy Roy, forcément, c'est l'actualité tout de même. Alberto Contador, un an de suspension. On s'y attendait. Bon, ça veut dire quoi cette sanction ? Ça veut dire qu'il n'est pas complètement coupable. Normalement, en cas de contrôle positif, on va dire traditionnellement sur les derniers contrôles, c'était 2 ans de suspension. Aujourd'hui, c'est seulement 1 an de suspension. Ça veut dire quoi ?
Écoutez, moi, c'est ce que j'avais prévu, 1 an. Il y a déjà eu un cas similaire au cours début de saison passée. Je ne sais plus quel coureur, mais il était suspendu 1 an pour la même chose. Le clambutérol à dose aussi infime, c'est généralement 1 an, pas plus. Donc moi, ça ne me choque pas.
D'accord, vous êtes OK avec cette suspension ?
C'est une suspension, donc ça veut dire qu'il y a triche, surtout que quand même dans les analyses qui ont été faites, et ça je crois que c'est presque plus important que le clambutérol, c'est quand même des traces de plastique. Donc ça veut dire qu'il y a eu transfusion. Et ça je crois que c'est plus grave encore que le clambutérol.
Et alors pourquoi ça ne te choque pas alors, non ?
Parce qu'il y a eu d'autres coureurs avant.
C'est pas un prétexte, ça. Oui, il y a un règlement, il y a des barèmes, quand même.
Oui, mais Pierre, il y a doute. Et donc, à partir du moment où il y a doute, je pense que les instances...
Simplement. Alors, attends, s'il y a doute, je suis désolé. Si le doute doit profiter à la défense, il ne doit pas être sanctionné. Je suis désolé. Ou il y a doute, et le doute profite à la défense, et il n'est pas sanctionné. Où il n'y a pas doute et il est sanctionné. Mais il est sanctionné par rapport au barème. Là, c'est vraiment tel cul entre deux chaises, là, si tu pars de ce principe-là.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Fédération espagnole a préféré utiliser le terme de proposition de sanction, de suspension, pour voir un petit peu l'attitude du coureur espagnol qui, lui, pour l'instant, l'a exprimé devant la presse. Il va jusqu'au bout, il va faire appel.
Il n'a pas le choix s'il dit OK. C'est-à-dire qu'il dit OK, je me suis dopé et puis voilà.
Oui.
Et je suis content avec 1 an.
C'est une forme d'aveu.
Oui, mais d'un autre côté, je vous rappelle qu'il avait dit qu'en cas de sanction, il arrêtait de courir.
Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est des paroles en l'air.
Il a un petit peu retourné sa veste, d'ailleurs. Hein.
Des paroles de champion, ça ?
Oui, on peut critiquer un petit peu l'attitude. C'est vrai que...
C'est du chantage, alors ?
Oui, c'est un petit peu du chantage. Oui, clairement, on peut le dire, Nicolas Pertuis, ça a été du chantage.
Oui, je pense complètement, oui.
Bon, en tout cas, c'est assez mal barré pour Alberto Contador. Très peu de chance
de le voir... Au championnat du monde, il sera là. Hein, donc.
Oui, à 4 jours près, il aurait pu prendre part au Tour d'Espagne, mais ça départ le 20.
Ça va aller très vite. C'est vrai que la sanction d'un an, finalement, sportivement, elle a très peu d'incidence. Très peu d'incidence, et ça c'est dommage, c'est ce que je regrette le plus en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que, mis à part le Tour de France, il a déjà été en 2008, rappelons-le, il n'a pas pu faire le Tour de France, donc pour lui c'est un bis repetita. C'est vrai que quand on prend 2 ans et qu'il faut s'entraîner pendant 1 an complet, c'est quand même compliqué psychologiquement. Là pour lui c'est pas compliqué du tout, et j'ai envie même de dire que ça va peut-être lui permettre d'être encore plus fort l'année prochaine.
Monsieur Pertuis, Si je suis coureur cycliste professionnel aujourd'hui, et par rapport à cette jurisprudence Contador, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre le risque de se faire choper par la patrouille une fois et de tricher le reste du temps ?
J'ai envie de dire oui, malheureusement.
Oui, puis on voit le cas, il y a le cas Ivan Basso, il y a le cas Alexandre Vinokourov,
c'est différent.
Il y a le cas Rico, différent.
Non, ils ont payé les 2 ans.
Ils ont payé 2 ans, c'est quand même différent, c'est pas pareil, c'est... Et puis là, on a l'impression.
Oui, mais même avec 2 ans, c'est bien la preuve qu'on peut prendre 2 ans de suspension et
revenir.
Mais
il y a un barème au moins. On va appliquer le barème.
Oui, mais le problème avec Contador, et ça, c'est un peu le problème qui se pose, c'est que vous pouvez parler d'Ivan Basso, mais Ivan Basso, il a avoué s'être dopé. Ivan Basso, il a payé. Maintenant, on est sur autre chose. Contador, il y a eu cette première affaire Puerto où visiblement il est passé entre les mailles, on ne sait pas trop comment. Là encore, il y a cette mini affaire de dopage. Puisqu'on parle de mini-dose de clambutérol, Encore une fois, il essaye de passer pour celui qui va être sanctionné sans avoir fait de faute. Donc il y a le doute dans l'esprit des gens. Dans les supporters de Contador, aujourd'hui, il y a encore ce doute.
Hop.
Et ça, c'est emmerdant quand même.
Écoute-moi, si j'ai bien compris, il ne nie pas les traces. Si j'ai bien compris.
Mais évidemment qu'il les nie pas, puisque c'était prouvé dans ses analyses. Mais simplement, il dit que c'est de la viande, c'est tout.
Oui, non, mais il ne nie pas les traces, donc il est coupable. Après, est-ce que c'est coupable à l'insu de son plein gré, etc. Peu importe. Tu dis, Basso, il avait avoué. Mais d'une certaine manière, il a avoué aussi, Contador, puisqu'il ne nie pas les traces. Après, il trouve le prétexte pour dire que c'était dans une viande frelatée qu'il a mangée. Mais il ne nie pas les traces, on est d'accord.
Ça, on l'a compris.
Donc il avoue.
On l'a compris, Père Selvac. Plusieurs réactions sur le mur Facebook de Carrément Vélo sur RTL L'Équipe. Encore une fois, c'est Armel qui laisse ce message. Encore une fois, les diverses autorités espagnoles ne jouent pas le jeu. Réaction également de Nico Ricardo El Pistolero qui dit tout simplement soit il est coupable et c'est 2 ans, ou il ne l'est pas et il n'est pas suspendu. Question également, différence entre le dopage lourd et le dopage léger entre le PO et le clambutérol, Nicolas Pertuis.
C'est compliqué à répondre à vos questions. C'est, pour moi, c'est dopage. Il y a dopage et puis ça cache autre chose, simplement, parce que faut... Moi, je ne suis pas un spécialiste du dopage. Vous me posez cette question.
On la posera à Damien Ressio.
Oui, c'est mieux, mais pour moi... Il n'y a pas de petit dopage et gros dopage.
Oui.
On se dope ou on ne se dope pas, et c'est tout. Et à l'époque où moi j'étais amateur, les coureurs se mettaient des fléchettes dans le cul à l'oupeau belge. Je suis désolé, c'est aussi gros que de l'OPO. Pour moi,
Nicolas Pertuis ?
Je ne vais pas répondre à cette question, même si je vous réponds non. Qu'est-ce qui vous dit que je vais vous dire la vérité ?
Il s'est dopé, Nicolas Pertuis. Voilà, il vient de le balancer. Pierre Salviac.
Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage,
oui,
a déclaré un jour, et moi je tiens ça pour une référence, il a déclaré un jour que on ne parle pas de quantité, on ne parle que de qualité. Donc il n'y a pas de discussion. Il est pris, quelle que soit la quantité.
Et puisque c'est un produit interdit, donc on peut tout à fait considérer effectivement qu'il est coupable. Dans les prochains jours, j'imagine évidemment que la Fédération espagnole va confirmer donc cette suspension. Et puis on va voir jusqu'où nous mène ce feuilleton. On est parti là, Nicolas Pertuis, on peut l'imaginer encore sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec ce feuilleton Alberto Contador, avec une action en justice de la part du pouvoir espagnol.
Malheureusement, je crois que oui, et c'est encore bien dommage pour le cycliste. Parce que
il y aurait une jurisprudence Contador.
Ah,
c'est ça le problème.
Oui, c'est ça le problème. C'est effectivement que tout risque d'être modifié.
Ah bah oui,
après,
les autres après ils vont dire, attends, Contador il a pris 1 an, pourquoi je prends 2 ans?
Oui, mais bon, je pense que tout de même 1 an pour un coureur, vous savez, c'est jamais agréable. Hein. C'est sûr, vaut mieux prendre 1 an que 2 ans.
Mais non, mais arrêtez avec ça. Ouais, arrêtez avec ça. C'est des discussions de marchands de tapis. Le président Macouette, pour une fois, a dit une chose intéressante un jour. Il a dit, il faudrait 4 ans, c'est-à-dire le temps d'une Olympiade.
Et
je suis d'accord avec ça. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Allez, on attend en tout cas dans les prochains jours donc la confirmation de cette suspension. Alberto Contador, vous le savez, qui a décidé de faire appel et qui a quitté d'ailleurs son équipe, qui était en stage à Palma de Mallorca, la team Saxo Bank. Il est soutenu en tout cas, Nicolas Pertuis, par Björn Norris.
Ça
aussi, il y a beaucoup de choses à dire.
Attends, c'est la même famille. Hein.
Ouais, c'est un peu
la
même
famille des chargeurs réunis.
Il sera payé, quoi qu'il arrive, même sur son année de suspension. Vous trouvez ça normal?
Non.
Ouais, c'est vrai. Pierre Salviac.
Bah oui, c'est pour ça. Mais pourquoi c'est 1 an justement la proposition? C'est parce que effectivement, quand c'est 1 an, tu ne paies pas le même prix que si c'est 2 ans. Parce que là aussi, il faut l'expliquer aux auditeurs. Il faut au moins 2 ans pour que tes salaires soient supprimés. Si c'est 1 an, c'est juste une petite partie, une infime partie de son salaire.
Une petite suspension. Allez, je crois qu'on peut le dire comme ça, on peut le résumer comme ça pour Alberto Contador qui pourra.
Oui, pour le salaire, vous êtes certain?
Oui, il va conserver son salaire.
J'ai lu ça dans L'Équipe, qui est un journal de référence.
Ouais, et la Saxo Bank qui conserve également les points acquis par Alberto Contador tout au long de la saison 2010. Ce sera peut-être pour un prochain débat. 11h44. On va passer à autre chose puisque vous le savez, on a un petit peu modifié la formule de Carrément Vélo. Toujours plus d'actualité, plus de débats et plus de réactions également. Je vous rappelle que Jérémy Roy devrait être avec nous d'ici quelques minutes dans Carrément Vélo sur RTL L'Équipe. Et puis David Boucher également sera en ligne avec nous en dernière partie d'émission. La saison a d'ores et déjà débuté en Europe et tout particulièrement en France avec le Grand Prix de la Marseillaise. Hier, victoire de Jérémy Roy, le coureur de la FDJ qui s'impose. 2e position pour Sylvain Georges, 3e position pour Romain Feuillu, un podium 100% français. Pierre Salviac, ça doit vous faire plaisir pour débuter la saison.
Non mais c'est une course franco-française, donc c'est la moindre des choses qu'un Français la gagne. Alors ce qui me paraît intéressant dans le cas de Jérémy Roy, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il gagne. Je crois qu'il a gagné une étape de Paris-Nice devant
Thomas Voeckler,
je crois, oui, c'est ça. Et ce qui me paraît surtout intéressant, c'est quand il explique après l'arrivée qu'il a beaucoup bossé pendant l'hiver, en particulier en faisant des cyclo-cross. Ça me rappelle Cyril Guimard, qui n'était pas le plus mauvais de nos directeurs sportifs et qui recommandait toujours à ses coureurs de faire du cyclo-cross l'été. Et puis je me dis aussi que c'est un type qui, la veille de la course, en dépit de conditions climatiques désastreuses, nous précise l'équipe, il est allé reconnaître le tracé. Ça veut dire que déjà, il s'était mis dans la tête d'être un vainqueur. Ben, quand un coureur prend toutes ses dispositions pour gagner et qu'il gagne, je dis bravo. Et je dis d'autant plus bravo que cette course, pour autant que je sache, c'était une course sans oreillette. Et c'est peut-être grâce à ça que son échappée prématurée après 10 km de course est allée jusqu'au bout.
Nicolas Pertu, coup de chapeau à Jérémy Roy.
Oui, c'est bien, il relance un peu, je ne vais pas dire qu'il relance sa carrière, mais c'est un garçon qui a beaucoup de talent, moi je l'ai vu arriver chez les juniors, c'est un garçon qui a toujours gagné des courses, et c'est vrai que bon, on lui a donné cette étiquette un peu de coureur étudiant pendant des années, ingénieur, tout ça, bon, aujourd'hui ça fait 2-3 ans maintenant qu'il est coureur cycliste à 100%, et c'est vrai que moi je me posais encore la question ce matin, savoir sur quel terrain finalement on pouvait attendre Jérémy Roy. Je pense que les courses d'un jour c'est plutôt son terrain à lui, il nous le dira peut-être dans quelques minutes, mais c'est bien qu'il gagne.
Si on arrive à le joindre, pour l'instant il est sur répondeur.
Il a gagné le Trobriand aussi, non?
Oui, l'année dernière, cette année il regagne une course. C'est bien, mais il faudrait qu'il passe maintenant à un niveau qui est un niveau un peu supérieur, quoi. Mais
il en forme trop tôt?
Non, je sais pas du tout. On parle de préparation. Moi, j'ai rigolé hier soir quand j'écoutais la radio et j'écoutais Onesta qui parlait de la victoire de son équipe, et l'animateur lui demandait mais pourquoi, comment expliquez-vous toutes ces victoires? Et sa réponse a été l'envie et le talent. Bon, alors ça m'a bien fait marrer parce que je veux dire, on peut expliquer tout et rien avec ça. Mais là, j'espère qu'on va pouvoir lui demander à Jérémy, parce que bon, faire du cyclo-cross, ok, mais s'il en a fait deux, ça ne change pas énormément grand-chose dans sa préparation. Il faut arrêter avec ça.
Parce que finalement, en préparation, qu'est-ce qu'il faut faire, Nicolas Pertu, pour arriver en forme en début de saison? Il faut enchaîner les kilomètres pendant l'hiver.
Bah, écoutez, ça dépend ce que vous avez fait l'année d'avant. C'est toujours même pareil, c'est toujours la même question. Si vous avez fait une grosse saison l'année d'avant et que vous avez arrêté votre saison fin octobre, c'est pas possible de reprendre début novembre et d'arriver avec 8000 km. Donc il faut voir ce qui a été fait l'année d'avant, le qualitatif, le quantitatif. Et puis voilà, mais bon, on peut pas dire comme ça qu'il a fait une grosse préparation. Moi, je ne le sais pas en tout cas.
Et réaction également sur le mur Facebook de Carrément Vélo de Nicolas. Et juste derrière, je vous donne la parole, Pierre Salviac. Heureusement que les oreillettes ont été enlevées, sinon Jérémy Roy n'aurait pas gagné. La victoire serait tout simplement pour Romain Feuillu qui s'est imposé au sprint juste derrière. Ça change la donne, ça, Pierre Salviac, selon vous, la course, les oreillettes? Il y a eu ce débat
il y a encore quelques semaines. Je voudrais répondre à Pertuis d'abord, parce qu'il dit, moi je peux pas savoir s'il a fait du travail. Mais attends, mais lis au moins ou écoute au moins Roy. C'est lui-même qui dit, j'ai réalisé un gros travail cet hiver. Donc si tu le crois pas, ok. Mais si tu le crois, au moins on sait que s'il a gagné, c'est parce qu'il a réussi ou réalisé un gros travail cet hiver.
Mais un coureur quel qu'il soit, quand on est professionnel, j'imagine qu'on fait toujours le travail maximum pour arriver en forme quand on veut être en forme. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il faisait rien ou qu'il faisait pas grand chose?
Tu dis, je sais pas ce qu'il a fait. Tu l'écoutes alors ou tu le crois pas?
J'écoute, je vois qu'il a fait quelques cyclo-cross, mais c'est pas qu'avec le cyclo-cross qu'on peut arriver et gagner des courses en début de saison.
Je suis assez d'accord avec toi.
Mais il a pas dit que des cyclo-cross, il a dit qu'il effectuait un gros travail. Il a répondu à ta question.
C'est dommage, pour l'instant on n'arrive pas à le joindre. Jérémy Roy, c'est la raison pour laquelle on aurait bien aimé lui poser cette question, effectivement. Mais ce qui est évident, en tout cas, ça paraît compliqué tout de même. Et il suffit pas d'enchaîner les cyclo-cross en hiver pour espérer remporter les premières courses de la saison. Il faut faire beaucoup plus que ça.
Le cyclo-cross amène bien des choses. Et là, je rejoins ce que disait Pierre avec Cyril Guimard des années. Je veux dire, le cyclo-cross, on le sait bien, ça fait monter le cœur, ça fait travailler aussi la puissance parce que des fois, c'est vrai. Compliqué. Donc, c'est des qualités qu'on travaille finalement assez ludiquement parce qu'on est en compétition. Ça permet de travailler des choses qu'on a peut-être du mal à travailler à l'entraînement. Mais voilà, c'est un petit plus. C'est pas l'essentiel du travail.
Oui, relis-le. J'ai réalisé un gros travail cet hiver en enchaînant notamment pas mal de cyclo-cross dans le froid et parfois dans la neige. Et ben donc voilà, il a fait le métier. On est d'accord.
C'est le papier de Manuel Martinez.
Il a fait le métier dans
l'équipe. C'est pas un coureur de course à étape d'une semaine. Il a pas le profil pour emporter ou pour monter sur un podium d'un Paris-Nice, par exemple. Jérémy Roy, Nicolas Pertuis.
Je crois que ses qualités de grimpeur.
Il roule bien également. Attention, hein. Bon rouleur, bon grimpeur. Enfin, grimpeur.
n'est pas un super rouleur, c'est pas un super grimpeur. Quoi. C'est un coureur qui passe partout, mais qui n'a pas vraiment un terrain à sa mesure. C'est un peu le problème de ce garçon, je pense. C'est un bon coureur, mais qui n'a pas...
Et ça, c'est, chez les professionnels, c'est compliqué. Il faut avoir forcément un domaine dans lequel on est très bon, très costaud.
Bah, disons que la première des qualités chez les pros, j'ai envie de dire, c'est être sprinter, puisque 90% des courses se gagnent au sprint. Hein. Ou alors avoir une petite pointe de vitesse. Après, voilà, si vous êtes un grimpeur, bah, c'est certain que vous allez plus aller sur les courses à étapes, avec une bonne récupération si vous en avez une. Et puis après, il y a d'autres qualités. Mais moi, je voyais plus un Jérémy Roy sur des classiques ardennaises. Il a plus le profil pour ce genre de course.
Il faut accorder de l'importance à ce podium tricolore, Pierre Salviac, où il faut patienter, il faut surtout pas s'emballer.
Ah, t'as zappé ta question donc sur les oreillettes.
Bon, alors d'accord. Les oreillettes, allez-y, Pierre Salviac, vous avez toujours un petit train de retard. Hein. Vous savez que dans le
mais
vélo,
non,
c'est pas bon, il faut toujours avoir un train d'avance.
Quand tu poses une question, au moins, on va jusqu'au bout. Quoi.
Alors allez-y, Pierre.
Parce que moi, je suis un partisan des courses sans oreillettes. Je pense que ça donne plus d'intérêt à l'épreuve et en tout cas ça m'énerve ces directeurs sportifs qui passent leur temps à jouer de la CB pendant toute une course. La question que j'aurais posée à vous deux, c'est est-ce que vous pensez que cette échappée dès les dix premiers kilomètres et qui va jusqu'au bout a une conséquence ou est une résultante de cette politique du sans oreillette?
Je pense. Je passe la parole à Nicolas Pertuis.
Bah, je sais pas. Chaque année, ça se termine tout seul au Grand Prix de la Marseillaise, donc je pense.
Non, mais ils étaient à trois là quand même au départ.
Oui, bah chaque année, il y en a un Poriol, c'était pareil, il avait réussi à contenir. Il était parti d'un groupe d'échappée. Donc la Marseillaise, ça se termine deux fois sur trois avec un groupe d'échappés.
Et si on regarde les écarts, 2 minutes et 43 secondes hein, de retard pour Romain Feuillu hein, sur Jérémy Roy. Donc c'est quand même un écart assez conséquent.
C'est peut-être parce qu'on a lancé la bataille trop tard.
Ou peut-être
pas,
qu'on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas à revenir tout simplement sur l'échappée du jour.
C'est un parcours difficile. Hein,
ouais,
c'est vrai.
Un peloton, toujours un peloton assez peu conséquent dans le final. Donc la poursuite est toujours plus compliquée.
Ricardo
Rico. C'est pour ça que quand je t'entends faire des petites réserves à propos de Jérémy Roy. Je note seulement au passage que, comme je le disais tout à l'heure, il a gagné 3 courses. Avec moins de courses que ça, on en faisait déjà des plats sur Chavanel. Remettons l'église sur la place du village et considérons quand même que ce roi-là, le bien nommé, il promet quand même.
Et auto-réaction.
C'est un coureur qui avait terminé vice-champion d'Europe derrière Visconti à Athènes, je crois, en 2002 ou 2001. C'était un espoir du cyclisme français.
Ouais, franchement, c'est un coureur qui est arrivé chez les professionnels avec un très très gros palmarès chez les amateurs.
Ouais, quel âge là ?
Il va sur ses 28 ans, Jérémy Roy.
Bon, il est de 83. Il a la maturité, comme on dit dans le cyclisme.
Oui, je pense que là, effectivement, lui-même, il a cette ambition de faire une grosse saison. Hein. Nicolas Pertuis, et on l'a dit, il a déjà remporté.
J'espère qu'il a l'ambition de faire une grosse saison. Enfin, j'ai rien contre
enfin,
Jérémy.
C'est ce qu'il
j'ai
nous dit.
J'ai
rien
contre Jérémy Roy.
Si, Nicolas,
j'adore ce garçon. Non, non.
Mais je veux dire, que t'as quelque chose.
Quand un coureur.
L'ingénieur du cyclisme.
Non, mais attendez. Quand un coureur professionnel dit
j'ai envie de faire une grosse
saison. J'ai envie de faire une grosse saison. Enfin, tous les coureurs ont envie de faire une grosse saison, sinon ils ne sont pas professionnels.
Ça veut dire quoi que les années précédentes, il n'avait pas envie de faire une grosse saison?
Mais j'en sais rien.
Nico. Quand il dit qu'il est allé repérer la veille de la course.
C'est du pipeau, ça.
C'est du pipeau, ça.
Non,
c'est
non pas je ne pense pas pourquoi ça serait du
pipeau. Non, c'est pas du pipeau, mais est-ce que c'est vraiment ça qui lui a permis de gagner?
Je suis pas sûr. Moi, je trouve en tout cas.
Ça fait partie,
ça fait partie du métier.
C'est peut-être 2 ou 3% de sa victoire.
À un moment donné, il faut avoir les jambes. Si tu les as, tu les as.
Oui, mais
pas,
attends, si tu fais déjà l'effort, ce qu'on reproche trop d'ailleurs aux coureurs français souvent, si tu fais déjà l'effort d'aller reconnaître le circuit, c'est que quelque part, tu as quand même l'ambition de faire l'étape.
Oui, c'est sûr. C'est qu'on a, on se met déjà dans l'impôt d'un éventuel vainqueur.
Voilà.
On est tout à fait d'accord. Là, on est d'accord avec vous. Pierre Salviac, l'actualité toujours 11h passée de 54 minutes. Dernière réaction, sur le mur Facebook de Carrément Vélo. Réaction de Nicolas, toujours qui dit les Français sont les rois des échappées. Tu enlèves les oreillettes et toutes les courses sont à eux. Je suis pas persuadé, mais bon, voilà. Allez, pourquoi pas. En tout cas, on peut considérer que c'est une belle victoire et un podium. Podium tricolore, on rappelle, le podium, premier Jérémy Roy, deuxième position pour Sylvain Georges et troisième position pour Romain Feuillu, podium 100% français pour cette première
épreuve
de la saison.
Attends, ça s'appelle la Marseillaise, c'est la moindre des choses.
Ah oui, Grand Prix de la Marseillaise, Grand Prix d'ouverture, effectivement, la Marseillaise. Parlons à présent des championnats du monde de cyclo-cross. On va pas parler des coureurs élites, quatrième position, on le sait, pour Francis Mouret, victoire de Stibar, qui conserve le Tchèque, qui conserve son titre, pas grand-chose à dire, si ce n'est que malheureusement Mouret est passé complètement à côté de son début de championnat du monde. Il est bien revenu sur le final. Sylvain Chenel s'est emballé une nouvelle fois. Il était dans le groupe de tête en première partie de ces championnats du monde. Et il a complètement coulé une bielle, comme on dit dans le milieu, sur la seconde moitié de ces championnats. Et puis enfin, j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau aux juniors qui ont réalisé un triplé. La victoire de Clément Venturini et le podium des frères jumeaux, les frères Doubé, Fabien et Loïc. Trois juniors aux trois premières positions des championnats du monde de cyclocross. Nicolas Pertuis, c'est tout à fait exceptionnel.
Bah, bravo à Pierre-Yves Châtelon, qui dirige cette équipe aussi bien sur la route qu'en cyclocross. Malheureusement, je ne connais pas ces jeunes, donc je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup ici, mais comme souvent en junior, on est proche d'un titre mondial. On l'a été sur la route avec ces 10 dernières années, 3 fois sur la route avec Arnaud Gérard, Olivier Legac et puis Johan Lebon il y a 3 ans.
C'est bien la preuve qu'on a tout de même de bons coureurs français chez les jeunes. Comment peut-on expliquer justement cette réussite chez les jeunes et quand ils passent professionnels, après derrière c'est beaucoup plus compliqué ?
C'est l'éternelle question, je me la pose souvent. Je pense que ce sont les coureurs eux-mêmes qui peuvent répondre à ce genre de questions. Je pense qu'il y a un problème d'entourage quand les coureurs arrivent à 19, 20, 21 ans. Je pense qu'il y a un problème de qualitatif et quantitatif à l'entraînement. Je pense qu'on veut aller trop vite. Je pense que les coureurs se crament, contrairement à ce que peut dire un Cyril Guimard, qui voudrait au contraire que les coureurs à 19 ans fassent beaucoup plus en quantité, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de continuité dans une carrière. Ça commence effectivement à 17 ans, mais ça ne se termine pas à 19 ans. Problème, quand je prends un jeune qui passe pro à 21 ans, souvent on se rend compte qu'il fait la même chose avec le même nombre de jours de course à 21 et la même chose à 24. Et c'est un problème parce que on a l'impression.
Ça veut dire qu'on travaille trop chez les jeunes ou pas assez chez les pros ?
C'est compliqué parce que chaque cas est différent, mais j'ai simplement l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas un plan de carrière sur 10 ou 15 ans. Et qu'on va au court terme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les choses assez rapidement, mais une carrière, on n'a qu'à voir avec Absalon. C'est des charges de travail qui progressent chaque année. Il faudrait rester avec le même entraîneur pendant 15 ans. Quoi.
Mais il y a une vraie cohérence.
Mais ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que cette cohérence, on ne la trouve pas encore en France, mais j'espère que ça va changer. En tout cas, on a les talents de base. Et ça, c'est quand même l'essentiel.
Pierre Salvec.
Oh là, c'est trop technique. Pour moi, votre débat, là. Non, moi vous savez, j'adore le cyclocross. Hein. Moi, ce qui m'a intéressé, si on peut revenir au débat de tout à l'heure à propos du cyclocross et s'agissant de la victoire de Stibar. C'est que voilà un type qui est donc champion du monde désormais et qui rêve du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, dont le directeur sportif dit que c'est surtout un bon grimpeur. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique.
Patrick Lefebvre, oui, qui a recruté le coureur tchèque.
Je voudrais qu'on m'explique à quoi s'attendre d'un champion du monde de cyclocross.
Bah, c'est pas forcément surprenant de l'imaginer bon grimpeur, puisque prenons l'exemple par exemple d'un Perrault. Alors vous allez me dire, l'exercice est peut-être un petit peu différent, Nicolas Pertuis, mais au niveau de l'intensité lors d'un cyclocross, une heure de cyclocross, on pourrait comparer ça peut-être à une ascension d'un grand col en France.
Non, c'est quand même... Ouais,
non,
c'est compliqué.
Il faut pouvoir rester avec une pulsation, avec les pulsations très élevées, à une haute intensité pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs dizaines de minutes. C'est le cas des cyclocrossmen. Donc quand Patrick Lefebvre nous dit qu'il peut éventuellement faire un bon grimpeur, c'est peut-être pas complètement idiot.
Ouais, mais je pense qu'il se repère plus au rapport poids-puissance que Stibar, qui c'est vraiment un poids-plume. Regardez Nice à côté, c'est pas le même gabarit. Et un Nice, lui... Il voulait préparer le Tour des Flandres. Voilà, il était plus dans ce registre de course-là. Un Stibar, maintenant, c'est vrai que je ne sais pas combien il pèse, mais il ne doit pas faire plus de 57 kilos ou 56 kilos.
Oui, c'est un poids léger, effectivement.
C'est un poids léger, donc c'est sûr que le rapport poids-puissance peut être intéressant.
Si, comme on le rappelle, Stibar avait, dans le Tour des Pyrénées chez les amateurs, fait une belle performance dans le passé, ça veut dire que quand même le cyclocross prépare à des compétitions difficiles, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de Roy, c'est pas si mal que ça, donc qu'il fasse l'hiver des cyclocross.
Oui, pourquoi pas, effectivement, mais c'est en tout cas ce qui peut expliquer sa bonne forme du moment. Nicolas
Le problème, Pertuis. C'est qu'un cyclocross même contre Stibar, il est obligé de couper sa saison routière
début août.
Vous avez regardé les championnats du monde hier de cyclocross?
J'ai vu le final.
Bon, c'était intéressant, le final avec Mouret qui revient de loin.
Les deux Belges se relèvent.
Hein. Ah oui, je suis d'accord avec vous, Pierre Salvec, c'est un vrai spectacle.
C'est un vrai spectacle.
Avec des spectateurs au bord des chemins.
Je peux dire une dernière chose?
Bien sûr.
Par contre, ce que j'aimerais en France, on a des bons cyclocrossman, on a des bons pistards aussi, on a des bons juniors sur route, mais par contre on n'a plus aucun poursuiteur. Ah et oui. On se rend compte aujourd'hui que les équipes anglo-saxonnes et les bons coureurs qui sortent aujourd'hui chez les pros sont des bons poursuiteurs. Donc il faut vraiment retravailler la poursuite en France.
Mais Nicolas Pertuis depuis quelques temps.
Nicolas Pertuis de Vélo Magazine est avec nous, tout comme Pierre Salvac. Restez connectés sur le www.rtl-équipe.fr.
RTL Équipe. Carrément Vélo, Emmanuel Barthes.
La deuxième partie de Carrément Vélo, toujours avec Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, avec Pierre Salvac également depuis La Rochelle. Place au débat. Oui, vous êtes là, Pierre Salvac, effectivement. Place au débat à l'heure de la mondialisation du cyclisme. Les coureurs se retrouvent en Australie, en Malaisie ou encore en Afrique. Victoire d'Anthony Chartaud sur la Tropicale Amissa Bongo, le Gabon, théâtre d'une épreuve cycliste où les Européens participent également au développement du vélo dans cette partie du monde. Et parmi ces coureurs, un certain Sylvain Chavanel. La question est posée, elle est simple. Est-ce bien raisonnable de débuter sa saison en Afrique lorsque l'on s'appelle Sylvain Chavanel et qu'on est tout simplement, je crois qu'on peut le dire, le plus grand coureur français du peloton? Enfin, coup de projecteur sur un gars du Nord qui trace sa route en Belgique. Son histoire pourrait inspirer Danny Boone, mais c'est sur les pavés qu'il s'exprime le mieux. Renié par les recruteurs français, David Boucher fait depuis quelques années le bonheur des équipes belges. C'est en Belgique qu'il trouve son petit coin de soleil. Je me répète, David Boucher sera en ligne avec nous en dernière partie d'émission. Le rendez-vous est pris, allez, dans 10 minutes à partir de 12h15. C'est Carrément Vélo, vous êtes sur RTL Équipe.
Carrément Vélo, c'est sur RTL Équipe.
Et on part de plus belle pour cette deuxième partie de Carrément Vélo en musique avec Nicolas Pertuis de Vélo Magazine, bien sûr, et Pierre Salvac. Place au débat à présent. Vous le savez, on a un petit peu modifié la formule de Carrément Vélo. Toujours plus d'actualité, plus de réactions, plus de débats, bien sûr, et plus de coureurs et de directeurs sportifs et d'invités. Donc dans ce Carrément Vélo, place au débat. Cette fois-ci, direction l'Afrique, est un pays qui se développe en matière de vélo. Ça ne date pas de cette année, c'est le cas depuis plusieurs années notamment. Mais cette année, on a découvert, par exemple, bon, on rappelle évidemment que c'est le dernier vainqueur du maillot du maillot à poids, hein, le meilleur grimpeur du dernier Tour de France, Anthony Chartaud, qui s'est imposé donc sur la Tropicale Amissa Bongo, avec plusieurs équipes européennes de très haut niveau, avec un certain Sylvain Chavanel également qui débute, donc Nicolas Pertuis, sa saison en Afrique. Est-ce bien raisonnable?
Écoutez, pour moi c'est un problème. C'est un problème à plusieurs facettes, Sylvain Chavanel, et qui aime bien châtie bien, parce que j'aime beaucoup Sylvain. On le sait, hein, on ne va pas le répéter, c'est je crois un des plus gros talents en tout cas du cyclisme français aujourd'hui. Le problème, c'est que Sylvain Chavanel, moi, aujourd'hui, je veux le voir sur les classiques flamandes. Enfin, on nous a vendu Sylvain Chavanel comme le coureur des classiques flamandes. Et comme chaque année, finalement, bah, on a Sylvain Chavanel qui n'est pas avec l'équipe de Tom Boonen, quoi. Je veux dire, logiquement, Sylvain Chavanel devrait être au Qatar à faire les premières bordures avec ses coéquipiers dans le vent, dans le Sahara, là, enfin, je ne sais pas où ça, mais dans le désert, là, avec voilà, à faire la guerre là-bas.
Dans le Sahara.
Et chaque année, finalement, on le retrouve sur d'autres courses, alors que ça soit l'Afrique ou pas. Après, il y a toujours le problème des vaccins, et on peut toujours, c'est vrai, prendre des risques peut-être.
Il y a eu le problème de Mareux l'an passé. Hein.
Il était malade avant d'y aller, paraît-il. Donc, Mais c'est ça la question, en fait, c'est. Pour moi, c'est pas la place de Sylvain Chavanel en Afrique.
Pierre Salvac.
C'est pas sa place.
Je sais bien que depuis la mort de Fausto Coppi, on se pose la question de savoir s'il faut aller courir en Afrique, mais on est dans la mondialisation du rugby. Pourquoi pas Chavanel du cyclisme. Pourquoi pas Chavanel en Afrique? J'ai vu qu'il y a quand même des grandes équipes. Donc moi, je suis pas particulièrement choqué par rapport à ça. Je dirais seulement que. De toute façon, il faut qu'il court dans des territoires qui sont aujourd'hui, on va dire, de territoires de chaleur. Bon, on ne peut pas courir dans le Grand Nord actuellement. Pourquoi pas? J'avoue que j'arrive pas à comprendre bien ce débat-là. Ce qui m'interpelle plus, c'est qu'il soit à 7 minutes du vainqueur.
Bah, en fait, la question, c'est de savoir, voilà, c'est quand même compliqué pour le plus grand coureur, je trouve, du peloton français, de débuter sa saison en Afrique. On aimerait peut-être le voir face à d'autres coureurs, préparer déjà la période des classiques. Là, on ne sait pas trop ce qu'il va faire finalement en Afrique, si ce n'est enchaîner les kilomètres.
Oui,
on voit d'autres coureurs qui sont déjà au niveau sur les courses. en Australie par exemple, ou sur ou en Malaisie également. Oui. Et là, on a tout de même, on voit vraiment une grosse différence de niveau entre le peloton présent en Afrique et le peloton présent sur les autres épreuves. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est vraiment sa place ? Est-ce bien raisonnable quand on a pour ambition de briller, justement, comme le dit Nicolas Pertuis, sur les classiques, sur Paris-Roubaix, sur Tour des Flandres ?
Il y a Nicolas qui croit qu'il peut gagner une classique flandrienne. Non, mais ou
pourquoi pas ? Et
Pierre,
pourquoi pas ? Il Pierre, a montré de belles choses tout de même il y a deux ans.
Il y a Nicolas qui peut croire à ça, et le Père Noël.
Il y a trois ans, j'étais pas le seul à le penser. Hein. Je me rappelle toute la
oui,
presse.
Oui, oui, j'ai vu. Oui, mais c'est pas parce que la presse dit des conneries qu'on est obligé de les répéter.
Oui,
hein.
Oui. Mais il y a une chose qui m'effraie avec Chavanel, c'est que personne finalement, même lui-même, ne sait pas ce qu'il va faire réellement. Et c'est ça le problème. Oui. Le Fever, il est bien gentil, Patrick Lefever. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais chaque année, alors là encore une fois, il le met dans une équipe.
Mais Lefever, il s'en fout de
attendez,
Sylvain Chavanel.
Et pourquoi il a embauché Sylvain Chavanel, Lefever ? C'est quand même pour
parce qu'il a besoin d'un coureur. Non, mais pas du tout.
Ah bon ? Alors
mais
pourquoi ?
Pas du tout. Il a besoin d'un coureur français pour développer le marché Quick-Step en France.
Ah bon, c'est tout.
Ben à votre avis, pourquoi il est allé chercher Virenque ?
Alors j'ai le programme de Chavanel, il va se poursuivre au Challenge de Majorque.
Oui,
ensuite,
d'accord.
Ensuite, au Tour d'Algarve.
Mmh. C'est bien.
Et il va rejoindre. Ben, c'est bien. Oui, enfin, je sais pas.
Contador, au Tour de l'Algarve, l'année dernière, a fait quelque chose, non ?
Oui, oui. Ouais. Et après, il va rejoindre effectivement les autres coureurs de classique à partir du Hedvolk.
Mais en même temps, pour reprendre les propos de Pierre Salviac, est-ce qu'aujourd'hui, sur ce qu'il a montré, au sein de la formation Quick-Step, qui reste tout de même la plus grande équipe pour les classiques, on a beau dire ce qu'on veut, hein. Parfois, c'est vrai qu'il passe à côté, mais historiquement, ça reste tout de même l'équipe des classiques. Est-ce qu'il peut taper du poing sur la table et dire, voilà, je veux être favori, je veux être dans l'équipe avec Boonen, je veux être dans l'équipe avec les meilleures courses, avec les meilleurs coureurs des classiques. Est-ce qu'il peut prétendre à cela ?
Mais ça n'en prend pas le chemin, puisque, encore une fois, il n'est pas dans l'équipe à Boonen. Oui. Donc ça n'en prend pas le chemin. Encore une fois, j'ai lu hier qu'il voulait aussi être bien sur Paris-Nice. Alors, il veut être bien sur Paris-Nice, il veut être bien sur le Tour des Flandres, il veut être bien sur Paris-Roubaix, mais ce n'est pas possible, ça.
Mais c'est
faut
de la
arrêter.
Com, il n'arrête pas
arrêter.
De faire de la com, celui-là.
Pierre Salviac.
Il n'arrête pas de faire de la com sur son nom, Chavanel est prêt à tout dire et n'importe quoi. T'as raison qu'à un moment donné, il faut arrêter. Mais moi, j'avoue franchement que je sais pas dans quelle course je peux le mettre favori, quoi. C'est ça le problème. Alors, tant qu'à faire, bah, qu'il roule, qu'il s'entraîne, qu'il fasse des kilomètres.
Bah, c'est ça, c'est ce qu'il fait actuellement. Bah, c'est-à-dire oui. qu'il ne se pose pas de questions, qu'est-ce je vais y arriver sur sa préparation. Il enchaîne les kilomètres.
Et s'il gagne
l'étape
du Tour de France, il sera content.
Oui, bah, on sera content également quand même. Hein,
oui,
parce
oui,
que
bah,
c'est, ah, finalement, bah, on sait très bien que Sylvain Chavanel n'a pas les capacités pour remporter un grand tour.
Ça.
Le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne.
Même Nicolas n'y croit pas.
Il peut éventuellement remporter une course d'étape d'une semaine.
Il
on
a
peut
failli
penser,
il y a deux ans. Oui.
Il est à Paris-Nice, Tour de Catalogne, enfin toutes ces épreuves effectivement d'une semaine. Pourquoi pas Tour du Pays Basque ?
Non, ça monte trop au Pays Basque.
Ça monte trop ? Oui. D'accord,
ah
ça
oui.
monte trop au Pays
ah
Basque.
Oui, c'est dur. Hein.
Oui, c'est Pierre Salviac confirme effectivement.
Bah, je l'ai fait, je sais.
Vous avez fait le Tour du Pays Basque, Pierre
oui,
Salviac ?
Oui, en voiture suiveuse, oui.
Oui, j'ai du mal à le croire ça. Tout ça pour vous dire que c'est vrai qu'on a du mal à cataloguer Sylvain Chavanel aujourd'hui.
Oui, et puis c'est surtout que Patrick Lefever a toujours un double discours avec lui.
Oui.
Il y a deux ans, il nous dit oui, n'inquiétez pas, il va faire le Tour des Flandres, et puis après, il va faire Liège-Bastogne-Liège. Allez, comme si on peut être bien sur le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.
Et Nico, il y a un an, il voulait le virer, hein, je te signale.
Oui, oui. Remarquez, après, au niveau programme de course, moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'il ne soit pas avec l'équipe de Boonen. Parce qu'après, le programme de course, c'est le même que celui que De Volder faisait il y a ces trois dernières années. Et De Volder a quand même gagné deux fois le Tour des Flandres avec ce programme de course. Il est passé par l'Algarve. Et voilà. Donc, de toute façon, il y a, pour voir si Chavanel fera de bonnes classiques cette année, il sera bien sur Paris-Nice, il faudra regarder le chrono du Tour d'Algarve. C'est toujours le point de référence avec lui pour savoir si on va avoir un bon Chavanel en mars ou si on aura un Chavanel comme l'année dernière qui était très moyen.
Peut-être qu'il a compris également que s'il repousse un petit peu son pic de forme, il peut briller sur le Tour de France comme l'an passé.
Alors ça c'est une question que j'avais posée l'année dernière, quelques jours après son deuxième maillot jaune. J'ai dit, Sylvain, est-ce que... J'étais allé le voir à l'hôtel. Est-ce que justement cette expérience du fait que tu n'aies pas pu rouler pendant X semaines et la fraîcheur que tu as aujourd'hui te permet d'être maillot jaune, est-ce que ça te pose question ? Est-ce que ça te fait remettre en question des choses sur ta programmation d'entraînement, tout ça ? À l'époque, il m'avait répondu non, moi ce que je veux c'est faire des kilomètres, je me pose pas ce genre de questions.
Mais il a pas envie de s'emmerder, Sylvain Chavanel, et pourquoi pas ? Il enchaîne les kilomètres et puis il va courir. Si ça sourit, tant mieux. S'il passe à côté, tant pis.
Bah, par contre, j'ai lu là dans la presse la semaine passée que justement il avait un peu réfléchi par rapport à ce qui s'était passé l'année passée.
Pierre Salviac a du mal à le croire.
Et donc, il allait essayer de remettre en place ce qu'il avait fait l'année dernière. Donc, en gros, il devrait retomber sur les bastonniers.
Mais bien sûr qu'il peut réfléchir, Sylvain Chavanel.
Qu'est-ce
Pierre
qu'il a
Sagnac.
Gagné ? Vous pouvez me rappeler le palmarès de
Attendez,
Chavanel,
Pierre, je vais tout de même vous rappeler le festival qu'il nous a fait sur le dernier Tour de France.
Est-ce que vous pouvez me rappeler le palmarès de Chavanel ?
Trois victoires d'étape sur le Tour de France, déjà, si mes souvenirs sont bons.
La Flèche Brabançonne, c'est sa plus belle.
Maillot jaune également sur les épaules du Tour de France.
Qu'est-ce qu'il a gagné ?
Il a remporté bon nombre d'épreuves du calendrier français également. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a plusieurs. Il a été placé sur le Tour des Flandres il y a 3 ans, il me semble. D'ailleurs, il était peut-être en position de l'emporter si De Volder n'accélère pas dans le Gramont, également, si mes souvenirs sont bons. Non,
ouais, vous n'y croyez pas trop. Je pense même que Kunisato, qui était avec lui, était plus
c'est
fort.
Vrai.
Ah oui, quand
on
même.
Peut peut-être poser la question à David Boucher, qui va venir avec nous sur l'antenne de RTL Équipe d'ici quelques minutes. Tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, à Sylvain Chavanel, il sera présent. C'est pas sûr, en plus. Hein. C'est pas certain de le voir sur Paris-Roubaix. C'est pas certain de le voir dans l'équipe
pour
le Tour des Flandres. Hein.
Ah bon,
Tour des Flandres, si, comme chaque année, mais Paris-Roubaix, ça va être l'éternelle question.
D'accord. Il sera présent donc sur le Tour des Flandres pour épauler Tom Boonen.
Oui, c'est d'accord, prévu en tout d'accord. cas.
Ah bah pas pour gagner alors.
Ah, on verra, je sais pas pour gagner Nicolas
Pertuis. Pour épauler ou pour gagner ?
Non, je pense que Patrick Lefebvre va évidemment faire le choix d'un Tom Boonen dans un premier temps. Bah on souhaite bon courage en tout cas à Sylvain Chavanel qui a débuté donc sa saison en Afrique, pourquoi pas. Vous voyez, moi quand j'ai ouvert ce débat, je pensais plus aux difficultés d'enchaîner derrière suite aux courses africaines avec les possibilités de virus.
Oui, mais attends, tu sais le virus, tu sais qu'on peut l'attraper aussi dans le Tour de France à manger une mauvaise viande. Hein.
Oui, vous faites référence.
Fais gaffe quand même.
Au cas Alberto Contador, on a bien compris Pierre Salviac. Midi passé de 15 minutes, c'est carrément vélo. Vous êtes sur RTL Équipe, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Coup de projecteur à présent sur un coureur, on va pas dire peu connu tout de même, parce qu'évidemment les spécialistes du vélo connaissent très bien parfaitement David Boucher, qui évolue en Belgique depuis le début de sa carrière. En tout cas, il n'a connu que des équipes belges rognées par les recruteurs français. Nicolas Pertuis me fait non, je me suis trompé. Il a été en France.
Il était chez Octos une année.
Ah, il a été chez Octos. Ok. Ben on va l'accueillir. David Boucher, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je m'excuse, puisqu'apparemment, vous avez fait une saison chez Octos.
Oui, c'est vrai. On va dire une demi-saison, parce que je suis passé en cours d'année le 1er mai de l'année. Donc, c'est vrai que j'ai effectué une demi-saison chez Octos.
Alors, une demi-saison. On est ravis de vous avoir sur l'antenne de RTL Équipe, David Boucher, parce que vous avez un parcours tout de même particulier. On rappelle que vous avez signé en début de saison pour la formation Mega Pharma Lotto, que vous êtes un coureur de classique. Si je dis un coureur de kermesse, est-ce que vous le prenez mal ?
Non, mais bon, je suis pas du tout d'accord avec ça, puisque pour gagner une kermesse en Belgique, je pense qu'il faut être un autre coureur que moi, et n'importe qui vous le dira, même Sylvain ou quelqu'un d'autre, c'est très 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 difficile d'aller gagner une kermesse en Belgique. Et à l'heure actuelle, je n'en ai gagné qu'une, donc je pense pas que je sois un coureur de kermesse.
Un coureur de classique, ça c'est sûr en tout cas. Vous aimez les pavés, le vent, les bordures, c'est là où vous exprimez le mieux.
Oui, on va dire c'est plutôt ça. Bon, c'est vrai que j'ai toujours évolué dans des équipes, on va dire, pas moins importantes qu'Omega Pharma Lotto. Et bon, j'ai toujours eu comme consigne de faire l'image publicitaire de l'équipe, donc montrer mon maillot, puisque c'est ça qui compte pour eux avant tout. Donc j'ai toujours fait mon travail comme on me l'a demandé. Et bon, maintenant, cette année, c'est autre chose. C'est un nouveau palier qui est franchi et... Bon, j'aurai certainement d'autres tâches à faire dans ma nouvelle équipe et ce sera essentiellement sur les classiques, en effet.
Ça veut dire que jusqu'à présent, le message de vos directeurs sportifs était « Tu pars dans une échappée, tu montres le maillot, on veut voir le sponsor, peu importe le résultat. »
Exactement, c'était ça.
C'est étonnant ça. Pierre Salviac, vous en pensez quoi ?
Ben, c'est le début de la mort du cyclisme. C'est-à-dire que si effectivement ces consignes sont prioritaires, on est en train de tuer toutes les ambitions des coureurs, parce que le but pourtant d'un coureur cycliste professionnel, pour moi, c'est d'aller jusqu'au bout en essayant de gagner. Se montrer, ça va, mais ça dupe personne.
Alors, si maintenant ça sourit un petit peu plus pour vous, en tout cas, si vous allez pouvoir peut-être, je sais pas, obtenir davantage de marge de manœuvre, vous avez le sentiment, un petit peu, David Boucher, justement, qu'on vous a enlevé un petit peu cette partie, cette envie de la gagne, et que vous avez été obligé de remettre un petit peu vos ambitions à la baisse ?
Non, c'est faux. J'ai toujours été un gagneur, même si j'ai pas beaucoup gagné. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'une fois que je m'engage dans une échappée, c'est dans le but d'aller au bout. Mais c'est pas du tout la mort du cyclisme. Le problème est que c'est justement il y a très peu de jeunes qui osent s'engager justement dans des échappées à l'heure actuelle, parce que le cyclisme moderne, c'est des grosses formations qui se mettent à rouler sur le final pour placer leur leader et qui reviennent essentiellement vraiment sur la fin le plus tard possible pour engager soit un sprint massif, soit mettre leur leader dans de meilleures dispositions pour la dernière difficulté et aller s'imposer. Donc je ne pense pas du tout que ce soit la mort du cyclisme, bien au contraire, si beaucoup plus de jeunes avaient ma mentalité, à l'heure actuelle, ils seraient certainement dans d'autres équipes.
Non, je ne te parle pas de ta mentalité, je te parle de la consigne du directeur sportif qui consiste à dire « montrer le maillot, sous-entendu, ça me suffit ». C'est ça que je veux dire. Que je
ah oui, mais ça passe par là, je pense que si on
Si tu es sur le podium, tu montreras le maillot, hein.
Oui, je sais bien, mais bon, il y a que 3 places sur le podium et il y a 200 coureurs au départ, donc c'est pas donné à tout le monde. Et bon, maintenant, si on n'est pas un grimpeur, si on n'est pas un sprinter, ils font bien se montrer quelque part. Donc pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui sont pas spécialisés. Il faut peut-être justement leur donner cette motivation et justement aussi au niveau des sponsors, ce qui devient de plus en plus rare dans le cyclisme, de s'engager à long terme ou d'être sponsor d'une équipe. C'est justement donner l'envie de s'engager et qu'on voit justement cette publicité à l'image, parce que je sais que c'est assez coûteux à l'heure actuelle de voir un maillot à la télé, quoi.
Nicolas Pertu de Vélo Magazine.
Bonjour David.
Oui, bonjour.
J'avais eu l'occasion de suivre David sur une kermesse il y a de ça au moins 5 ans maintenant. Et à l'époque, je me rappelle que David, parce qu'il y a des bookmakers sur le bord des routes, sur les kermesses, il avait quand même une grosse cote. Est-ce que ta cote a monté depuis ces 5 années encore, David, en Belgique, et comment on peut faire qu'est-ce qu'il faut faire, explique aux gens qu'est-ce qu'il faut faire pour être un coureur français et être respecté en Belgique comme tu l'es aujourd'hui?
Je pense que bon, ça s'est fait naturellement. C'est vrai qu'avec les bookmakers, j'ai ma cote qui a augmenté un peu aujourd'hui, bien que bon, bah, c'est vrai que, comme on dit, je vais rarement au bout, mais c'est pas toujours de ma faute, justement, c'est à cause des tactique de course. Mais bon, au niveau du public belge, bon, bah, j'ai fait toute ma, on va dire, à part ma demi-année chez Octos. Avant, j'étais déjà chez les Espoirs en Belgique et depuis ce temps-là, j'y suis chez les professionnels. Donc, je pense que le public belge sait que je n'ai pas peur de partir pour des longs raids et que je ménage pas mes efforts et que, ben, allez, je suis toujours ouvert parce que le public, c'est un peu le qui font vivre le vélo, c'est un peu le plus qui fait vivre le vélo maintenant à l'heure actuelle. Les difficultés, si on n'a pas le public, il n'y a pas grand chose au bord des routes. Je vois qu'en Belgique, dans les courses, c'est phénoménal, alors qu'en France, bon ben, on va dire c'est un peu triste, quoi.
Et c'est ce qui vous motive à rester en Belgique justement?
Non, j'ai plus un tempérament justement des courses belges de battant, je vais dire d'un guerrier, de m'engager.
Ça veut dire quoi, que les coureurs français ne sont pas des guerriers?
Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que je pense qu'ils ont une autre façon de courir et bon, c'est vrai que moi, le souvenir que j'en ai, certainement que ça a changé à l'heure actuelle, mais quand j'étais, le peu que j'étais en France, c'était, ah, il pleut, ben on va faire de l'homme-traîneur, ah, il fait froid, et il neige, ah, il fait pas beau, donc à l'heure actuelle, certainement que ça a changé, je vais pas critiquer parce que je côtoie pas trop les coureurs français à l'heure actuelle, mais c'est vrai que fut un temps, c'était ça. Donc moi, je, au contraire, s'il pleut ou qu'il gèle ou qu'il fait très froid, bon bah je vais rouler, c'est pas ça. Et puis une course où il pleut, où il y a du vent, où il y a, pour moi, c'est que mieux parce que ça fait plus naturellement la sélection. Donc, voilà.
Ça, c'est un discours qui doit faire plaisir à Pierre Salviac.
Oui, j'adhère complètement. Ça me rappelle dans les années 70. Et il y avait un coureur qui s'appelait Mollet, qui était un coureur du Nord, qui courait, je crois, pour l'équipe de Poulidor, je crois, et qui avait décidé, effectivement, de s'installer en Belgique pour apprendre à frotter, pour apprendre à s'entraîner dans des conditions difficiles, etc., afin de devenir un bon équipier, parce qu'il savait, lui aussi, qu'il ne pouvait pas gagner tant de courses que ça. J'aime cette mentalité-là, et si le cas Boucher m'intéresse, c'est pour l'exemple. Si effectivement les coureurs français pouvaient s'inspirer de son expérience et aller se frotter au cyclisme belge et faire des enfants qui ont qui ont de la voix, quoi. Et ben, je trouve que ça serait bien pour le cyclisme français.
Nicolas Pertu de Vélo Magazine.
David, il me semble que tu retrouves cette année Dirk De Wolf qui t'avait pris sous son aile en espoir.
Mm-hmm.
Hein, c'est le cas.
Ah, ouais. Hein, ouais.
Pour toi, c'est vraiment un plus de retrouver Dirk cette année chez Omega Pharma?
Bah oui, d'autant plus que c'est, je veux dire que j'ai, je vais pas dire que j'ai rien appris avant, mais bon, une fois que je suis arrivé avec Dirk, c'est là que j'ai compris ce que c'était vraiment le vélo. C'est lui qui m'a, je vais dire,
et c'est quoi le vélo alors? C'est quoi le vélo, David Boucher?
De la souffrance.
Bah voilà, c'est souffrir sur un vélo, ne pas avoir peur de rentrer chez soi après un entraînement en étant cramé, ne pas s'arrêter à une terrasse boire un café quand on va rouler, voilà. et aller rouler par.
Et bien pourquoi les directeurs sportifs français t'engagent pas avec une mentalité comme ça?
Bonne question.
Bah pour ça, exactement. C'est pour cela, soi-disant, certainement que j'ai une grande gueule et que du fait que j'ai franchi le pas et d'aller en Belgique, je sais pas, ça doit gêner, je ne sais pas.
Vous avez continué à gagner avec les Belges, ça leur fera les pieds.
Faudrait leur demander justement, parce que ça fait des années que je cherche la réponse et que je ne la trouve pas.
Vous n'avez jamais eu de contact avec une équipe française? Jamais un recruteur, un manager d'équipe ou un directeur sportif s'est tourné vers vous pour vous proposer un contrat? Jamais?
Non, les portes se sont plutôt fermées, on va dire. La seule équipe avec laquelle j'ai eu quand même quelques contacts, c'était Cofidis. Mais bon, ça n'a jamais abouti. 2-3 ans de suite, ça n'a jamais abouti. Pourquoi, je ne sais pas. Et certainement qu'il y avait une personne qui faisait barrage. Mais bon, maintenant, j'ai eu, à chaque fois que j'avais plusieurs propositions, c'était toujours en Belgique.
Mais t'es si chiant que ça pour que ça fasse barrage?
Non, je suis pas chiant. J'ai dit la vérité en face. Parfois, c'est vrai que c'est pas toujours bon à dire, mais je préfère être franc que d'être faux. Et voilà, c'est peut-être cette chose-là qui fait que les gens n'apprécient pas. Mais bon... Je pense que c'est toujours mieux de dire ce qu'on pense que de le cacher, quoi.
Signer dans une équipe, je vais dire pro tour, même si le terme n'est plus d'actualité, tout en sachant qu'on n'a qu'une seule équipe à ce niveau en France, la formation AG2R, la mondiale, pour vous, c'est une revanche, David Boucher?
Oui, c'est une revanche. Et puis bon, c'est aussi, je veux dire, d'un certain côté, une récompense, parce qu'avec tous les efforts depuis quelques années que je fais, dans les échappées, bon, c'est vrai que ça a rarement abouti. Bon, ben maintenant, je vais pouvoir rouler avec une motivation supplémentaire pour un leader et montrer vraiment ce que je vaux et pourquoi pas justement servir de relais sur la fin à mon ou mes leaders et l'accompagner jusqu'au bout.
Votre leader, c'est Philippe Gilbert, hein, évidemment. Nicolas Pertuis.
Oui. Oui, David, une question. De tous les coureurs que tu as eu dans tes équipes depuis 2005, hein, Bookmaker, Unibet et puis Langbook Chronique l'année dernière, des Hunt, des Garden, des Cook, des Tease, des Vandenbroek, parce que tu as été avec Franck, des Simon, des DeWald, des Amorison, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment marqué? Est-ce qu'il y en a un qui t'a apporté des choses vraiment en plus que les autres?
Ouais, Franck. Il y a deux coureurs qui m'ont assez marqué, c'est Frédéric Gabriel.
Oui.
Parce que bon, ça a été quand même, à dire, un grand frère et un papa pour moi, puisque bon, il était toujours derrière moi. C'était pas du tout le coureur à aller faire Paris-Roubaix, Tour des Flandres et tout ça. Et pour m'épauler, il est venu faire toutes ces courses-là durant une année. Et donc, c'était chez Bookmaker. Et chez Unibet, j'ai retrouvé que j'avais déjà chez Bookmaker, Frank Vandenbroek, qui, malgré toutes les erreurs et les bêtises qu'il a pu faire, paix à son âme, il a toujours eu un grand cœur et c'est vrai que il était toujours de bons conseils et chaque fois qu'il disait quelque chose, c'était la vérité. Je veux dire, il pouvait me dire fais comme ça, c'est vrai que ça marchait beaucoup mieux à cet endroit-là, ça va se passer comme ça et ça se passait comme ça. Donc c'est vrai que c'est un des deux coureurs qui m'a vraiment dirigé, on va dire.
Nicolas Pertu.
Oui. Je me rappelle quand j'étais venu te voir, quand tu étais chez Bookmaker à l'époque, tu m'avais montré une photo de Mouzeou à l'époque, à la Mapei. Aujourd'hui, tu es dans l'équipe adverse et ennemie de la Mapei, enfin de Quickstep. Ça te fait quelque chose?
Bah, ouais, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur. J'avais qu'une hâte, c'est d'être le 1er janvier pour endosser le maillot loto, parce que c'est vrai que depuis que je suis tout petit, il y a deux équipes qui m'avaient très très fort marqué, c'était Quickstep, donc anciennement Mapei, et Lotto, qui est toujours dans le peloton. Jusqu'à ce temps-là, c'était déjà Lotto. Et bon, j'ai dit, un jour, j'aimerais vraiment bien intégrer une de ces équipes-là. Et d'y être, bon, bah, c'est un rêve d'enfant, c'est vrai. Mais bon, maintenant, c'est vrai que je vois plus ça avec des yeux d'enfant, et c'est mon boulot, mais c'est tout de même un réel plaisir, quoi.
Une question de Renaud sur le mur Facebook, et puis après je vais donner la parole également à Pierre Salviac. Une question donc pour David: veut-il être présent sur le prochain Tour de France? C'est possible à présent, David Boucher?
Si je veux y être, oui, c'est sûr que je veux y être. Bon, c'est...
Vous y serez?
Quelque part, je reste français. Bon, maintenant, si j'y serais, c'est à dire à 90% pas possible, donc ouais, 90% c'est moi.
90%, voilà, ouais. Déformation professionnelle. 90%, n'est-ce pas? Mon belge n'est peut-être pas très bon, mais 90%, c'est ça?
Oui, je n'y serai pas bon, parce que pour cette année, peut-être l'année prochaine, on va dire. Mais bon, cette année, c'est vrai qu'il y a Jürgen Vandenbroucke qui a de grandes ambitions et il a avec lui trois ou quatre coureurs pour l'épauler. Et l'arrivée d'André Greipel pour les sprints et aussi son train de 3 ou 4 coureurs. Donc, ça fait plus Philippe qui veut y participer. Donc, ça fait déjà 9 coureurs, voire un ou deux en plus qui veulent y aller.
Oui. Donc, ce sera un petit peu compliqué.
Je pense que je ne vais pas me battre pour y aller cette année, ça c'est certain.
On vous attend davantage sur le début de saison et plus particulièrement sur les classiques, vous l'avez dit, pour épauler. Donc, vos leaders, Pierre Salviac, parcours particulier, hein, parcours atypique, celui de David Boucher en Belgique.
Oui, mais ça me plaît bien, moi.
Ouais, voyez.
Non, ça me plaît bien. Moi, j'aime ces histoires-là. J'aime ces histoires-là parce que derrière son témoignage, d'abord, c'est encore un coureur qui parle bien, déjà. Un de plus. Mais derrière ces histoires-là, j'ai l'impression qu'on a toutes les réponses aux questions qu'on se pose sur l'avenir du cyclisme français. Qu'une majorité d'entre eux ait la mentalité de Boucher, et je pense que le cyclisme français se portera mieux.
Et quelques commentaires toujours pour vous, David Boucher, sur notre Facebook de l'émission Carrément Vélo. C'est un grand champion. Allez, David, vous le méritez, évidemment. Et belle carrière à vous, belle saison, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, David Boucher. À très vite.
Merci
sur le www.rtl-l'équipe.fr. Merci également à Nicolas Pertu du Vélo Magazine. Et merci également à Pierre Salviac. Messieurs, on vous retrouve la semaine prochaine avec le retour, bien sûr, de Frédéric Millet. C'est la fin de Carrément Vélo. Un Carrément Vélo riche. Il se passera beaucoup de choses encore tout au long de cette semaine. Donc, vous le savez, rendez-vous lundi prochain sur le www.rtl-l'équipe.fr de 11h30 à 12h30. C'est Carrément Vélo. Vous êtes bien sur RTL Équipe. Surtout, restez connectés. Moi, je vous donne rendez-vous pour le Café des Sports dans une heure, tout pile avec les Harlem Globetrotters. Le rendez-vous est pris à partir de 13h30.